おかしいおかしい。
C'était le retour congolais avec Claude Quintin à la présentation.
Bonsoir et bienvenue à ce magazine d'actualité politique Dialogue entre Congolais. Nous sommes le mercredi 5 novembre 2008. Situation sécuritaire au nord Kivu, la Cour pénale internationale dénonce les exactions commises par les belligérants et appelle toutes les parties au conflit à mettre un terme au crime. Quelles sont ces exactions et comment la justice peut-elle être rendue au nord Kivu dans un contexte de guerre? Telle est la charpente de l'émission de ce soir et pour en parler, nous recevons deux invités, Maître Matadi Wamba, avocat au barreau de Kinshasa et ancien bâtonnier national, et Dismas Kitenge, président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale du droit des langues et chef des travaux à la faculté de droit de l'université de Kisangani dans la province orientale. Il intervient au téléphone à partir de Kisangani, justement dans la province orientale. Et dans notre second thème de ce soir, nous aborderons l'élection de Barack Obama, premier chef d'État noir à la tête de la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique. Quel sera l'impact de cette élection sur l'Afrique en général et la RDC en particulier? C'est ce que nous entendrons dans une interview qu'a accordé le professeur René Marchand à notre compteur. Kevin Couté.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Dans un communiqué rendu public hier mardi 4 novembre 2008, le procureur de la Cour pénale internationale CPI a exprimé son inquiétude sur la situation dans les deux Kivu et rappelé que son bureau suivait de très près les exactions qui se déroulent au nord Kivu. Notre confrère Pierrot Elamegi a contacté à cet effet le chargé de communication de la CPI en RDC, Paul Madidi. Suivons-les avant de poursuivre cette émission.
La situation qui prévaut actuellement dans le Kivu est très préoccupante. Ici commet des crimes de la compétence de la Cour pénale internationale. D'après les informations qu'on a, on a mené des attaques contre les populations civiles. On a forcé les populations à se déplacer, donc à quitter leur lieu d'habitation. Il y a eu des meurtres, des viols. Pour parler des viols, c'est même devenu, à en croire les rapports et les informations qu'on a, c'est devenu une arme de guerre. Il y a eu des pillages perpétrés lors des affrontements armés anciens, mais également récents. Et tout cela, donc, constitue des crimes graves de la compétence de la Cour. Comment il va orienter ces enquêtes? Évidemment, ça reste encore confidentiel. De toute manière, les enquêtes du procureur restent confidentielles.
Dans ses communiqués, le procureur évoque aussi le dossier du mandat d'arrêt émis à l'endroit de Bosco Ntaganda. En ce moment, ce dernier est chef d'état-major au CNDP. Pensez-vous qu'il soit possible d'exécuter ces mandats dans ce contexte actuellement?
De toute manière, la Cour pénale internationale n'attend qu'une chose, que les États parties notamment et d'autres ayant la possibilité d'arrêter M. Ntaganda, de le faire, de lui livrer M. Ntaganda. Pour la Cour pénale internationale, il n'y a pas d'autre issue.
La MONUC est-elle au courant de ces exactions? Louis-Marie Boaka, directeur adjoint du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, donne ici des éléments de réponse. Il est interrogé par notre confrère Denis Diboko.
Nous sommes au Congo depuis la création de la MONUC et nous suivons depuis très longtemps la situation des droits de l'homme de ce pays. Et nous sommes au courant des exactions qui sont commises par les groupes armés dans le Kivu dont parle le procureur de la Cour pénale internationale.
Quelles sont alors les exactions qui ont été commises par les différentes forces belligérantes sur le terrain?
Oui, vous savez, depuis très longtemps, nous sommes en situation de conflit, qui des situations de conflit armés, international ou international. Toutes les forces engagées dans ces conflits doivent respecter scrupuleusement l'article 3 commun de la Convention de Genève de 1949. Alors, il s'agit, entre autres, des recrutements forcés d'enfants, des viols, des exécutions arbitraires, des enlèvements, des disparitions forcées. Et je peux aussi dire d'atteintes plus récentes à la population civile et aussi à ceux qui ne prennent pas part au combat, tels que ceux qui ont déjà déposé des armes.
Bonsoir, Maître Matadi Wamba.
Bonsoir.
Un petit rectificatif, vous êtes avocat à la Cour suprême de justice et ancien bâtonnier national. On vient de suivre tous ces éléments. Et il y a aussi une réaction de la rencontre africaine pour la défense du droit de l'homme, RADO, dont le siège est à Dakar, qui critique la réaction timorée de l'Union africaine face à la crise politico-militaire en République démocratique du Congo et ses graves conséquences humanitaires. Et également, dans un communiqué daté du 29 septembre 2008, l'ONG internationale Amnesty International a dénoncé également le fait que pour deux enfants associés au groupe d'armées libérées, il y en a cinq qui sont recrutés de force par ces groupes d'armées. Votre réaction par rapport à tout cela?
Ben, c'est bien triste, mais il faut constater que le recrutement d'enfants dans les forces armées est une infraction très très grave, dans ce sens que ce fait-là constitue un crime qui est passible de la Cour pénale internationale.
Voilà, donc nous avons également dans cette émission Dismas Kitengi, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe Lotus, une ONG affiliée à la Fédération internationale du droit des hommes. Vous êtes également chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kisangani dans la province orientale. Votre réaction par rapport à ce tableau pas très reluisant qui vient d'être dressé?
Oui, merci. Notre organisation, comme la Fédération internationale des luttes des droits de l'homme, nous suivons avec attention et intérêt la situation qui se passe en Nord-Kivu. Ce que nous disons, c'est que toutes les parties au conflit commettent cette violation grave des droits de l'homme qui rentre des champs de la compétence de la Cour, notamment le massacre des populations civiles, les attaques et les massacres de la population civile, les viols, les recrutements d'enfants et leur utilisation dans les conflits armés. Nous avons également le pillage et l'incendie des villages. Plus que ça, nous avons également les violences et autres formes de violences sexuelles, nous l'avons déjà dit. Nous avons également l'obstruction à l'aide humanitaire, qui constitue en réalité des crimes de guerre qui sont perpétrés par toutes les parties au conflit. Ce que nous attendons, c'est que réellement, les procureurs passent à l'étape des déclarations d'intérêt à enquêter, à l'étape de l'ouverture d'une enquête qui doit aboutir à un mandat d'arrêt qui devra livrer au parti.
Merci beaucoup, Dismas Kitengi. Je reviens à vous, Maître Matadi Wamba. Le procureur Moreno, Luis Moreno Campo, a réagi en exprimant son inquiétude sur la situation dans les Kivu. Il rappelle que la CPI n'a pas fermé les yeux, elle continue à suivre cette situation. Est-ce, d'après vous, important que, en ce moment où il y a une très forte tension au Nord Kivu, le procureur s'exprime de la sorte? Est-ce, d'après vous, un avertissement pour dire au groupe d'armée, attention, mettez un peu d'eau dans votre vin parce que nous suivons la situation? Est-ce que ça peut être important, ne plus qu'à titre dissuasif?
Oui, à titre préventif, comme vous le dites.
Oui, préventif.
Oui, c'est important de dire aux gens, oui, faites la guerre, mais n'oubliez pas de vous conformer aux règles, parce que la guerre est aujourd'hui réglementée. Je crois que c'est dans cet esprit-là qu'il s'exprime.
Et vous, Dismas Kitengi, comment voyez-vous la réaction en ce moment précis où il y a une forte tension au Nord Kivu? Comment voyez-vous la réaction du... interprétez-vous la réaction du procureur de la CPI?
Premièrement, c'est une bonne action, qui, non seulement dans les cas de prévention, mais dans les cas de dissuasion. Ça peut également amener le parti en conflit à se rendre compte que la Cour est là et que la Cour peut arrêter et qu'il faudrait cesser les violations de droits de l'homme. Ça peut contribuer, ça a un effet psychologique. Mais plus qu'un effet psychologique, comme disait Maître, c'est aussi rappeler à toutes les parties au conflit, que ce soit les FARDC, les autres groupes armés, CNDP, pour dire que les violations que vous commettez rentrent du champ de la compétence de la Cour et que la Cour va, en tout cas, s'intéresser à ça et la Cour va réprimer ces violations de quelques parties que ce soit au conflit et que vous devez, vous, en fait, les acteurs sur le terrain, vous qui commettez ces crimes, vous devez vous attendre un jour à répondre de ces actes-là devant cette institution. Et je pense que c'est très important puisque l'impunité est à la base aussi de ces conflits qui se passent. Puisque si on avait eu à réprimer les violations de droits de l'homme, les violations les plus graves, que ce soit par les juridictions nationales comme par la Cour pénale internationale, ça pouvait contribuer quand même à dissuader les gens. Donc voilà, là c'est aussi le rappel que le droit est là et qu'aujourd'hui la guerre ne peut pas constituer une excuse à l'application du droit puisqu'il y a le droit international humanitaire, mais il y a aussi des crimes qui sont considérés imprescriptibles et qui ne peuvent pas faire l'objet d'une amnistie, quels que soient les accords.
Quels crimes par exemple?
Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Et ces crimes pourraient être concrets, par exemple, les attaques contre la population civile, les pillages de villages, l'attaque contre les camps de déplacés, les viols. Aujourd'hui, les viols font partie, les viols et autres formes de violences sexuelles font partie à la fois des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Et ces viols-là sont commis aujourd'hui, aussi bien par les FARDC que les éléments de CNDP, comme les autres groupes armés qui sont impliqués. Alors, ça, c'est un rappel très important là. Donc la privation de populations des conditions de vie, leur accès à des substances telles que l'accès à l'eau potable, l'accès aux soins de santé, refuser à la population, ça constitue également des crimes internationaux qui sont réprimés par la CPI.
Maître Matadiwamba, dans le communiqué de la CPI, le procureur parle de les attaques menées contre la population civile, le déplacement forcé des populations, les meurtres, les viols, les pillages, perpétrés lors des affrontements armés récents dans la province du Nord Kivu. Mais au Nord Kivu, il y a des camps des déplacés qui sont brûlés, poussant les déplacés à se déverser dans la rue, sans abri. C'est grave, vous confirmez, comme disons à ce qui est indiqué, c'est des crimes imprescriptibles.
Oui, c'est des faits qui sont érigés, comme on dit en droit pénal, en infraction, c'est-à-dire des faits qui constituent, qui forment des infractions, puisque ces faits sont élevés au niveau d'infraction, ça veut dire que c'est très grave, puisque ceux qui les commettraient, eh bien, s'exposent à des sanctions pénales et des sanctions très lourdes. C'est donc la matière n'est pas prendre à la légère. Donc ces faits-là qui sont énumérés, ce sont des infractions au code pénal. Donc c'est des faits graves, c'est des faits qui appellent des sanctions le moment venu.
Y a-t-il pas risque aussi que ceux qui commettent cela puissent faire disparaître les traces, puisque les populations sont parsemées à travers la province du Nord Kivu? Est-ce que ce n'est pas aussi une difficulté pour les organisations internationales, par exemple?
Oui, c'est une difficulté, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est du rôle du parquet d'aller rechercher les infractions. On a beau effacer ça, mais on n'arrive pas toujours à tout effacer, hein. C'est très difficile de dépasser toutes les traces. Avec le temps, bon, mais si le parquet s'y met aussitôt que la guerre est terminée ou même pendant que la guerre se déroule, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des caméras qui prennent des images, qu'il y a des victimes qui survivent parfois à toute une purge, on peut avoir quelques-unes qui survivent et qui peuvent toujours témoigner le moment venu. Que donc les traces, on les efface effectivement, ceux qui commettent les infractions s'efforcent pour ne pas être détectés, pour ne pas être découverts un jour, mais on n'arrive pas toujours à tout cacher.
Mais quand les exactions sont commises à la fois par des groupes armés congolais et par des groupes armés étrangers ou par des interventions étrangères, comment alors faire pour répertorier et puis peut-être mettre la main sur tous ces groupes armés qui sont apparemment incontrôlables?
Mais c'est toute la difficulté. Vous savez, lorsque un crime se commet quelque part, on peut toujours savoir quel groupe a été à tel endroit, à quel moment. Tout ça, c'est facile à savoir.
Comment?
Aujourd'hui, les troupes sont stationnées les unes à tel endroit, d'autres à tel autre endroit. On le sait, n'est-ce pas? En gros, on peut déjà dire à quelle unité appartient, par exemple, les hommes appartiennent, les hommes qui ont brûlé tel village, qui ont ici à tel endroit. Ça, c'est, on peut le savoir par le positionnement de troupes.
Merci beaucoup. Dites-moi, Kipengé, vous êtes justement président du groupe Lotus, qui est une ONG affiliée à la Fédération internationale des droits de l'homme. Qu'est-ce que vous faites pour amener justement ceux qui commettent des exactions, par exemple présentement au Nord Kivu, à avoir leur dossier à la Cour pénale internationale? Est-ce que vous avez pesé, vous avez répertorié tous ces crimes comme vous l'aviez fait pour le cas de Jean-Pierre Bemba en Centrafrique? Est-ce que vous avez répertorié tous ces crimes et si vous les avez transmis à la Cour pénale internationale ou c'est le procureur de son plein gré qui a enquêté?
Oui, le groupe Lotus qui fait partie de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme et la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme qui a deux membres affiliés de partenaires en République démocratique du Congo est entrée dans la filiage avec ses ligues membres ou les organisations nationales sont en train de documenter le fait, c'est-à-dire chaque jour de voir les violations qui se commettent et c'est par qui ces violations sont commises et comment est-ce qu'il y a des victimes, il y a des témoins. Nous réunissons tous ces éléments-là que nous commençons déjà à transmettre à la Cour. Nous avons déjà fait ce travail-là.
Pour le cas pour le cas du Nord Kivu, est-ce que vous avez documenté et transmis des informations sur ceux qui violent les droits des hommes là-bas au Nord Kivu?
Bien sûr, nous sommes bien présents sur le terrain, à travers toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui sont là. Nous partageons le même idéal de la lutte contre l'impunité. Et là, nous avons transmis les informations sur ces violations graves du droit international humanitaire.
Auprès de la Cour pénale internationale? Auprès de la Cour pénale internationale?
Auprès du bureau du procureur. Auprès du bureau du procureur, et non seulement que nous avons transmis, nous avons aussi interpellé les procureurs pour qu'ils fassent cette déclaration que nous venons d'avoir. Nous avons dit au procureur ce n'est pas correct qu'il s'étaise devant des graves violations de droits de l'homme qui rentrent du champ de la compétence de la Cour. Et maintenant, nous voulons, puisque les preuves existent, les violations, on les a déjà transmises, et nous demandons au procureur d'ouvrir, puisqu'il a déjà une base raisonnable avec toutes ces déclarations qu'il a faites, avec les informations qu'il a, d'ouvrir maintenant une enquête au Nord Kivu. Mais plus qu'au Nord Kivu, on dit à tous les deux Kivu. Hein, il y a le Nord et le Sud qui ont presque le même problème et qui subissent les conséquences. Mais particulièrement comme il s'agit du Nord, de le faire. C'est qu'il y a beaucoup d'informations sur les crimes que nous rassemblons. Nous avons aussi les victimes que nous organisons, qui doivent déjà interpeller la Cour. Nous avons aussi des témoins qui font leur déposition et que nous envoyons déjà au bureau du procureur.
Merci beaucoup. Nous avons Maître Matadi Wamba. Est-ce que vous, comment réagissez-vous par rapport à ce que vient de dire Dismas? On a beaucoup entendu le procureur, ou bien on a vu beaucoup de communiqués de la CPI en ce qui concerne la situation de l'Ituri. Et certains anciens leaders des ministres de l'Ituri se trouvent présentement à la CPI, mais à la haie, excusez-moi, mais on n'a pas beaucoup entendu la CPI par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu notamment.
Vous savez, les enquêtes judiciaires sont tout ce qu'il y a de plus lent. Hein. On ne mène pas tous les dossiers à la fois. Il y en a un congèle pour une raison ou une autre. Si le parquet a ça sur sa table, il faut s'attendre à ce qu'un jour ça que ça soit remis en selle, hein, donc que ça soit actualisé. Il n'y a rien qui presse. Il faut réunir toutes les preuves, il faut s'armer de toute la patience. La justice est essentiellement lente.
Merci beaucoup. Comment la justice peut-elle être rendue au Nord Kivu dans un contexte de guerre? C'est la deuxième partie de cette émission. Et voici comment vous pouvez réagir au thème de ce soir.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 890 66 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
La CPI devrait mener des enquêtes sur le terrain pour confirmer les allégations des massacres commis dans le Nord Kivu. Ce sont là les propos du porte-parole du CNDP Bertrand Bissimwa. Il réagit ainsi au communiqué de la CPI de ce mardi 4 novembre. Il estime par ailleurs que son mouvement n'étant pas signataire du traité de Rome, il ne peut exécuter le mandat d'arrêt émis à l'endroit de Bosco Ntaganda par la CPI. Bertrand Bissimwa a été joint au téléphone par notre confrère Pierrot et la Mégie.
Je n'ai pas vu la CPI descendre sur le terrain pour venir mener des investigations sur ce qui se passe réellement sur le terrain. Je ne sais pas qui a informé la CPI qu'il y a eu massacre des populations, il y a eu des mouvements qui ont brûlé le camp de déplacés. Moi, je crois que la CPI doit prendre son courage si elle veut venir enquêter, qu'elle descende sur le terrain pour enquêter. Je crois que le droit recommande à ce que le magistrat qui est saisi par une information quelconque puisse ouvrir une information pour vérifier réellement la véracité des faits sur le terrain. On ne peut pas, à partir de la haie, et commencer déjà à constater des infractions alors qu'on n'a pas été sur le terrain.
Monsieur Bertrand Bissimwa, la CPI, à travers ses communiqués, exhorte les acteurs dans la région ainsi que les organisations internationales à travailler pour la mise en exécution du mandat d'arrêt émis à l'endroit de Bosco Ntaganda. Mais en ce moment, Bosco Ntaganda est chef d'état-major au sein du CNDP. Êtes-vous prêt aujourd'hui à livrer Bosco Ntaganda à la CPI pour qu'il soit jugé?
Mais jusqu'à ce que je sache, les crimes de Ntaganda jusque-là ne sont pas prouvés. Nous ne sommes pas signataires de l'acte de Rome. Nous ne faisons pas partie. Et quand bien même nous serions au pouvoir, nous ne pouvions pas adhérer à cela parce qu'il s'agit là tout simplement de l'aliénation de notre souveraineté. Je ne peux pas accepter que les Congolais soient jugés par une juridiction qui n'est pas nationale.
Dans le communiqué de la CPI, hier mardi, cette instance internationale exhorte une fois de plus les organisations régionales et internationales à soutenir les autorités congolaises pour mettre la main sur Bosco Ntaganda du CNDP qui participe activement au conflit armé qui se déroule actuellement en Nord Kivu. Et sans prétendre répondre à la place du représentant spécial des Nations Unies en RDC, M. Alain Doss, Louis-Marie Boaka, directeur adjoint du Bureau des Nations Unies aux droits de l'homme, évoque la possibilité pour la MONUC d'assister les autorités congolaises. Il est interrogé une fois de plus par notre confrère Denis Diboko.
Je ne vais pas répondre à la place du représentant spécial qui engage la MONUC. Mais je sais que la MONUC est toujours éprise de paix et de justice. Elle s'est beaucoup investie dans le processus de lutte contre l'impunité et je crois que si le gouvernement lui fait la demande, je crois que la MONUC va répondre favorablement puisqu'elle dispose d'une force dans le pays.
Et alors s'il en est ainsi, peut-il s'agir d'une assistance militaire de la part de la mission indienne?
Mais vous savez, on ne va pas envoyer les civils pour arrêter un seigneur de guerre.
Merci beaucoup, Louis-Marie Boaquin, et merci également à notre confrère Denis Diboko. Je reviens vers vous, Maître Matadi Wamba. Je rappelle que vous êtes avocat à la Cour suprême de justice et ancien bâtonnier national. Se pose quand même un problème de justice, tel le cas de Bosco Ntaganda, qui dirigerait, selon certaines informations, les troupes du CNDP au Nord Kivu. Il y a un mandat d'arrêt de la CPI qui a été lancé contre lui, mais il n'est toujours pas arrêté, il ne se trouve pas dans la prison de la CPI à La Haye.
C'est parfait.
C'est-à-dire?
Vous dites qu'il n'est pas arrêté d'un côté, et de l'autre côté, le mandat est là. C'est certainement que ce mandat sera exécuté un jour.
Par qui?
Comment par qui? Il y a toujours une force et le mandat contre X et Y. Taylor contre l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba, contre un tas d'autres, même en Europe et tout, les services et tout. Ces mandats ont été exécutés, mais ils n'étaient pas exécutés le même jour, la même semaine, et peut-être même pas la même année de leur émission. Hein. Donc,
Ils se trouvent dans des territoires qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement. Comment la justice peut-elle être rendue au Nord Kivu dans un contexte de guerre comme ça?
Nous parlons de l'arrestation de quelqu'un qui est recherché ou bien de la justice qui doit être rendue ou qui, comment elle sera aujourd'hui
Mais c'est un fait. La justice doit être rendue, mais il se fait que l'une des personnes sur qui pèse un mandat d'arrêt se trouve dans un territoire qui n'est pas sous contrôle du gouvernement. Ça pose quand même problème, non?
Oui, ça pose problème et ce sera la difficulté, mais ça ne veut pas dire que le problème est éternel. Le jour viendra certainement où les conditions seront réunies pour l'exécution de ce mandat. Il ne faut pas en douter.
Dites-moi, Christ, quelle est votre réaction par rapport à ce fait?
Ma réaction, c'est à deux niveaux. Premier niveau, d'abord, il faut préciser que le procureur de la Cour pénale internationale, de par les statuts, dispose de plusieurs moyens pour avoir des informations sur les crimes qui se commettent. Il y a des informations officielles et non officielles qui peuvent provenir des ONG. Deuxièmement, et c'est très important de préciser qu'il y a plusieurs étapes. À ce niveau, le procureur n'a pas encore ouvert une enquête au Kivu. Le procureur juste a fait une déclaration d'intérêt public qu'il suit. Après, s'il a des informations qui constituent une base raisonnable, il va le faire. Une autre précision, non de moindre, c'est que même si le CNDP n'a pas signé les statuts de Rome, puisqu'il ne peut pas signer les statuts de Rome, ce sont les représentants de l'État qui engagent l'État, mais les crimes qui se commettent, c'est sur un territoire parti au statut de Rome. Donc le CNDP ne peut pas dire qu'il ne s'est pas concerné. Qu'il le veuille ou pas, il se trouve en République démocratique du Congo qui a signé le statut de Rome. Même les groupes étrangers des pays qui ne sont pas signataires du statut de Rome, mais à partir du moment où ils commettent ces violations de droits de l'homme sur un territoire parti au statut de Rome, donc on peut leur opposer le statut de Rome. Ce sont des violations, donc ils peuvent être poursuivis. Deuxièmement, l'arrestation de Bosco Ntaganda. Comment ça peut se passer le mandat d'arrêt? Il appartient d'abord à la République démocratique du Congo, puisque Bosco Ntaganda est un citoyen congolais. Donc le gouvernement congolais doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour pouvoir l'arrêter. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tous les États qui sont partis au statut de Rome devront également collaborer pour l'arrestation de Bosco Ntaganda. Et enfin, il y a aussi la MONUC qui est l'émanation des Nations Unies. Et les Nations Unies ont un traité, ont un accord de coopération avec la Cour pénale internationale. Les Nations Unies également ont le devoir de pouvoir collaborer avec la Cour, c'est-à-dire de contribuer à l'arrestation de Bosco Ntaganda qui est déjà sous mandat d'arrêt. Pour les autres qui ne sont pas encore sous mandat d'arrêt, là, il faut que le procureur agisse, c'est-à-dire après l'ouverture de l'enquête, quand il aura réuni assez d'éléments, et puis pouvoir arriver maintenant à délivrer un mandat, bien sûr avec l'autorisation du juge. À ce moment-là, tout le monde va collaborer, c'est-à-dire les États, y compris la MONUC, qui est engagée dans la lutte contre l'impunité des graves crimes, pour pouvoir arrêter. Donc, il appartient d'abord à l'État congolais, dont Bosco Ntaganda est ressortissant, pour faire tout pour l'arrêter. Mais aussi la MONUC, qui est sur le terrain, comme je disais, puisque la MONUC a un couloir, fait des allers-retours entre l'armée du CNDP et l'armée nationale.
Mais la MONUC va aussi... avec toutes les exactions qui se commettent au Nord Kivu, est-ce que la justice aujourd'hui peut s'appliquer, peut être rendue dans un contexte de guerre comme ça, puisqu'il n'y a pas que le CNDP, il y a aussi d'autres forces qui commettent ces exactions, certains éléments aussi des forces armées congolaises. Est-ce que c'est possible de rendre la justice dans ce pareil moment?
J'ai dit oui, puisque le gouvernement, l'État congolais existe. Il appartient, c'est d'abord de la responsabilité de l'État congolais de pouvoir organiser son système judiciaire et de poursuivre sur le plan national tous ceux qui commettent les infractions qui relèvent de la compétence d'une juridiction.
Mais est-ce que sur le terrain, c'est ce qui s'est fait? Il y a des FRDC qui ont pillé, il y a aussi le CNDP qui commet des exactions. Est-ce que sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on applique cette justice à travers peut-être des tribunaux militaires?
Oui, exact. À travers les tribunaux militaires, vous venez de suivre, il n'y a pas plus que 3 jours que les FRDC les officiers de FARDC ont mis la main sur le militaire pillard à Goma et ceux qui ont commis des arrestations et des viols autres et qui seront traduits devant le tribunal militaire. Donc ça, c'est déjà un signe de l'application de la justice.
Merci.
Bien sûr, on ne peut pas tenir compte de toutes ces tentatives de justice parallèles que Kunda peut faire, puisqu'un mouvement rebelle n'a pas le droit d'instituer les tribunaux. Les tribunaux du CNDP, si jamais ça existait, n'ont aucune considération juridique, n'ont aucune valeur juridique.
Merci.
Alors c'est d'abord l'État congolais. Et l'État congolais a la responsabilité de le faire, et s'il ne réussit pas, maintenant il peut recourir à la justice.
Merci. Merci beaucoup.
Et il a déjà fait en ratifiant les statuts de Rome.
Merci. Maître Matadi Wamba, est-ce qu'il y a moyen d'exercer la justice dans de telles conditions, dans un contexte de guerre comme en Nord Kivu, il y a des pillages, il y a des camps, des déplacés qui sont brûlés, il y a des attaques contre les civils. Y a-t-il moyen de rendre justice dans un tel contexte pour mettre fin à toutes ces exactions?
Il vient de vous le dire tout à l'heure, effectivement, il y a une certaine justice qui est rendue par le Conseil de guerre.
Est-ce que c'est assez pour décourager toutes ces exactions?
Est-ce que c'est assez? Mais que faudrait-il faire d'autre? Si le chef militaire, si ceux qui conduisent, n'est-ce pas, la guerre, constatent des faits criminels commis par leurs hommes, ils doivent sévir et ils le font. Il vient de vous le dire tout à l'heure et c'est exact.
Mais excusez-moi, Maître Matadi Wamba, vous êtes aussi président d'un parti politique qui est dans l'alliance de la majorité présidentielle, donc
oui,
du pouvoir.
Oui.
Mais pourquoi les pillages se répètent souvent comme ça auprès de certains éléments? Je ne dis pas toute l'armée congolaise, hein.
Oui.
Certains éléments, par exemple des FARDC. Si la justice sévissait vraiment, est-ce que ça pouvait se répéter comme ça?
Vous savez, c'est pas...
Parce que du côté du rebelle, c'est difficile de les contrôler, hein, mais du moins, il y en a partie que contrôle le gouvernement.
Mais ces actes sont punis, que je sache. Hein. Rappelez-vous à l'époque quand il y a eu des pillages ici.
À quelle époque?
Oh, ben, je crois que c'est le premier pillage. Les chefs militaires ont tiré tant sur les civils que sur des hommes en armes qui pillaient.
En quelle année?
Oh, mais j'ai pas l'année, c'est ça que je pense en 91 ou
90. Non, mais nous parlons des pillages qui se
oui,
déroulent maintenant, où il y a
les
une année.
Les pillages qui se déroulent maintenant, mais c'est ce que je viens de vous dire. Et c'est vrai, il a raison, parce que moi, je l'ai entendu à la radio. Eh bien, du moins, du côté de nos forces armées, eh bien, des éléments ont été arrêtés et traités comme tels.
Et vous pensez que l'application de la justice peut mettre fin à toutes ces exactions, quand même, qui sont graves? Les attaques contre les populations civiles, les déplacements forcés des populations, les camps qui sont brûlés, les meurtres, les viols et les pillages perpétrés, excusez-moi, lors des affrontements. Est-ce que la justice peut mettre fin? Peut aider à mettre fin à cela? Parce qu'on a toujours qualifié la RDC d'un pays où l'impunité règne. Hein.
Mettre fin par la justice, ça n'a pas de sens. Parce que, vous le savez, il n'y a pas de guerre propre, n'est-ce pas? Et il est du devoir de ce militaire, il est du devoir de ceux qui conduisent la guerre, de faire en sorte que les règles soient respectées. Et si les règles ne sont pas respectées, ces chefs militaires ont le droit de déférer devant la justice militaire, n'est-ce pas, en temps de guerre, pour que ces hommes, des malfaiteurs, des soldats indisciplinés, soient sanctionnés et punis.
Ça, c'est théorique, hein, mais dans la pratique, ce n'est pas ce qui se fait ici en République démocratique du Congo.
Ça, c'est fait, puisqu'on reproche aux autorités, parfois une justice expéditive, ça, c'est fait. Mais et parce que si les chefs militaires ne le font pas, c'est finalement eux qui en répondent.
Merci beaucoup, Maître Matadi Wamba. Bonsoir, Siti Poutou.
Bonsoir, Claude.
Vous êtes la porte-parole attitrée de nos chers auditeurs et je tiens cependant à leur dire que eux qui nous envoient leurs réactions, que nous ne pouvons toutes les lire à cause du temps limité de cette émission. Nous lisons celles que nous estimons être les plus pertinentes, Siti. Et qu'avez-vous sélectionné ce soir?
Oui, Claude, rappelons à nos auditeurs que Radio KP cultive la paix s'ils peuvent éviter les injures et toute incitation à la haine dans leurs messages. Depuis Bouillon, province orientale, Faustin estime que la CPI a très mal choisi le moment. Ce qui est opportun, c'est l'instauration de la paix et la sécurité à l'est de la RTC. Quant à Jean-Paul Bahati de Massissi au Nord Kivu, la CPI ne fait que durcir le cœur de certains belligérants qui pensent aller au brassage. Et ça bloque le processus du désengagement. À son avis, la CPI a des compétences limitées et n'a pas les moyens de sa politique. Robert Béa Bodissiro en province orientale encourage la CPI et pense qu'elle doit diligenter des enquêtes et déférer tous les chefs de guerre devant ses juridictions, bien sûr avec la coopération de la justice congolaise pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Avis que partage aussi Makenga ou à Mwantumba depuis Bandunduville. John Kazadi depuis Gemena, c'est dans la province de l'Équateur, dit ceci. Parce que les crimes contre l'humanité sont commis par deux parties en conflit. Pour la partie gouvernementale qui répondra devant la CPI, s'interroge-t-il. Enfin, Sylvain de Pierre, depuis Mbandaka, dans la province de l'Équateur, pense que la CPI doit plutôt arrêter les responsables et tous ceux qui sont impliqués dans les crimes perpétrés à l'est de la RDC au lieu d'un simple avertissement. À son avis, c'est une distraction et une façon d'encourager l'impunité. Avec le partage au futur de Kindu au Maniema.
Merci beaucoup Titi et merci également à nos chers auditeurs. Voilà, donc maître dis-moi Titi, il est vraiment en une minute puisque nous n'avons plus beaucoup de temps. Il y a aussi d'autres réactions que j'ai ici devant moi. Gédéon Ounedio Watumbe de Mahagi dans la province orientale ne soutient pas la décision de la CPI car, dit-il, combiner la pacification avec la justice, faire en sorte que les rébellions ne puissent jamais se terminer ou finir en Afrique en général et en RDC en particulier. Qu'est-ce que vous pensez? Le moment est mal choisi pour la CPI?
Au contraire, le moment est bien choisi. Il n'y a pas de paix sans justice. La justice et la paix sont deux réalités indissociables. Deuxièmement, il faudrait qu'on observe dans le procès qui s'ouvre si réellement toutes les normes de droit et les standards d'un procès équitable sera respecté. Et ce qui est encouragé aussi, c'est que au niveau même de l'armée, il faut qu'on voit aussi les responsabilités au niveau le plus élevé de l'armée, pas seulement le petit soldat qui sont impliqués. Dernière chose, la justice est un instrument qui consolide la paix. Donc il faudrait que la justice soit là, puisque une paix sans justice, ce serait un éternel recommencement des désordres, un éternel recommencement de tout. Et c'est la situation que nous vivons. Si dès le départ, depuis le San City et toutes les étapes que nous avons eues, si nous avions le souci également d'accompagner tout ça par le respect de la justice, on ne serait pas là où on est arrivé.
Même que certains chefs militaires ne risquaient pas d'éviter, par exemple, le processus de brassage, parce qu'ils estiment que s'ils viennent ici, la justice internationale peut toujours les prendre. Et puis, ils vont chercher à demeurer dans les maquis où on ne pourra pas mettre la main sur eux en 30 secondes.
Mais alors, rapidement, si tel est le cas, il faut vraiment qu'on lève bien les options. Est-ce que nous voulons interniser les processus de conflit armé dans notre pays ou nous voulons que la paix soit consolidée par la justice? C'est question de choix politique.
Merci.
C'est question de choix des sociétés.
Merci.
Je pense que nous avons choisi la paix par la justice.
Merci.
On doit en tirer les conséquences.
Merci. Maître Matadi Wamba, il y a John Kazadi depuis Gemena dans la province orientale qui dit ceci, parce que les crimes contre l'humanité sont commis par les deux parties en conflit, c'est-à-dire le CNDP et puis certains éléments de l'armée nationale. Pour la partie gouvernementale, il se demande qui répondra devant la CPI.
Le chef de guerre.
Non, pour le gouvernement, par exemple, pour l'armée nationale, il y a certains éléments incontrôlés, qui sont qualifiés d'incontrôlés, qui commettent des exactions. Par exemple, pour ces cas-là, qui pourrait répondre pour la CPI, devant la CPI?
C'est
leur chef?
D'abord, les individus eux-mêmes, s'ils sont retrouvés, ils en répondent, puisque la responsabilité pénale est individuelle. Si on ne retrouve pas les individus, on va voir dans quelle mesure celui qui commandait l'unité était au courant et n'a pas pu empêcher à ce moment-là, c'est celui-là.
Merci beaucoup, Maître Matadi Wamba. Passons à notre second thème du jour. Donc, on vous garde encore dans cette émission. Barack Obama a été élu 44e président des États-Unis d'Amérique. C'est le premier noir à atteindre un tel niveau de responsabilité dans la première puissance mondiale. Qu'est-ce que cette élection peut avoir comme impact sur l'Afrique en général et la RDC en particulier? C'est la question que notre consoeur Céline Couté a posée au professeur René Marchand. Il est professeur émérite à l'Université de Floride aux États-Unis. Il a été joint depuis les États-Unis États-Unis d'Amérique, suivant cette interview.
René Lemarchand, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeur émérite à l'Université des Florides, c'est aux États-Unis. Vous avez publié beaucoup d'ouvrages sur l'Afrique des Grands Lacs. Quel peut être, d'après vous, l'impact de l'élection de Barack Obama sur les relations avec l'Afrique et plus précisément avec la RDC?
Alors, je crois que, ne serait-ce que par ses origines, Obama donnera à l'Afrique une attention beaucoup plus soutenue que son prédécesseur. Mais ça ne veut pas dire qu'il donnera un traitement préférentiel à l'Afrique. Mais je crois qu'il y a plusieurs choses à souligner. D'abord, son profil identitaire en tant qu'Afro-Américain, bien sûr, mais c'est surtout quelqu'un, comme le soulignait tout récemment un commentateur du Cameroun, c'est un homme qui sait négocier les marges identitaires. C'est quelqu'un, effectivement, qui sait traverser les frontières nationales et ethniques. Vous avez des problèmes qui sont propres à l'Afrique et qui, très franchement, sont ingérables. Du Zimbabwe à l'Afrique du Sud, en passant par la Somalie ou la RDC, on est devant des situations extrêmement complexes qui certainement dépassent la capacité des États-Unis à les résoudre, unilatéralement en tout cas. Il y a plusieurs éléments, je crois, qui se dessinent à l'horizon et qui font prévoir une politique beaucoup plus valable que celle de Bush. D'abord, je crois que Obama fera pression sur le Rwanda pour qu'il fasse son soutien à Nkunda. Et en même temps, ce qu'on appelait le Washington Consensus, qui avait pour objet de donner un soutien inconditionnel au Rwanda, eh bien, c'est un consensus qui, je crois, va s'effriter. Kigali ne sera plus éternellement l'enfant chéri du département d'État et du Pentagone. Et je crois que dans le domaine qui nous intéresse ici, à savoir la crise du Congo, Obama s'efforcera de faire pression sur Kabila pour qu'il cesse de manipuler les FDLR et d'en faire une force d'appoint pour son armée, ce qui est apparemment le cas à l'heure actuelle.
Parlant de la crise en République démocratique du Congo, plusieurs initiatives américaines sont mises en œuvre pour la résolution de la crise dans la région des Grands Lacs. Mais en dépit de ces initiatives, la crise, elle perdure. Est-ce que vous pensez qu'avec la prochaine administration Obama, la RDC peut s'attendre à une solution durable?
Je crois que Obama travaillera en harmonie avec les Nations Unies davantage que ce qu'il fera pour l'administration Bush, mais surtout dans le domaine, disons, de la résolution des conflits. Je pense que Obama fera un effort pour donner beaucoup plus d'importance, de visibilité à la responsabilité des États dans la protection des civils. Et je crois que ce ne sera plus un vœu pieux, ce qui a été le cas jusqu'à présent. Alors, à ce niveau, je crois que certainement il y aura un changement. Je crois que ce qu'il essaiera de faire, c'est de renforcer les capacités de maintien de la paix de la Monique, et au niveau militaire, aussi au niveau diplomatique. De là à penser que l'Amérique enverra des militaires pour aider la MONUC dans ses fonctions, pour renforcer ses capacités de maintien de la paix, ça, il ne faut pas y penser.
René Lemarchand, ce matin, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, tout en félicitant l'élection du nouveau président, s'inquiète de l'idée soutenue par Bill Clinton, selon laquelle, pour régler la crise dans la région des Grands Lacs, il faut procéder à la partition du Congo à cause de sa grandeur. Est-ce que avec Barack Obama, on peut assister à l'émergence de la même conception des choses?
Je crois qu'il est encore un peu trop tôt pour le savoir, mais ça me semble très improbable. Mais je crois que qu'on peut concevoir éventuellement sera peut-être un processus de décentralisation qui donnerait davantage d'autonomie au Kivu du Nord et plus particulièrement à la région du Masisi.
Voilà, merci beaucoup Kevin Couté, merci également professeur Marchand. En 30 secondes, votre réaction par rapport à l'impact que cette élection pourrait avoir sur la situation de la République démocratique du Congo, en 30 secondes, Maître Matadi Wamba.
Je souhaite,
moi, rapidement,
moi j'aimais un souhait, c'est que nous évoluons que nous tirions une leçon, nous aussi, de cette élection. Ce n'est pas une victoire d'Obama, c'est une victoire du peuple américain, c'est une victoire des générations américaines, parce que ces générations ont évolué. Il faut que nous aussi nous évoluions.
Merci. Dites-moi ce qui était mis en 30 secondes.
L'impact peut être de 4 points rapidement sur le plan psychosocial. Je pense que Obama noir, aujourd'hui qui a gagné les élections, c'est pas question de racisme, c'est question de compétences, c'est question d'intérêt. Aussi sur le plan politique, c'est la victoire de la démocratie, de l'état de droit. Et sur le plan diplomatique, je crois Obama va engager plus de dialogue. Et sur le plan militaire, je crois Obama va essayer de développer. Donc l'exemple d'Obama aujourd'hui au Congo, c'est pour dire il faut pas qu'on regarde les origines des gens, mais qu'on regarde la compétence et l'intérêt.
Merci.
Et qu'on regarde aussi la démocratie, l'état de droit et
merci.
L'essence des dialogues pour trouver une solution à nos problèmes.
C'est par vous
les leçons qu'on doit tirer de l'élection d'Obama.
Merci à toute l'équipe qui a contribué à cette émission. Bonne soirée chez vous et au revoir.
Okapi, okapi.